Session sur la béatitude par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 19 avril 1996, troisième conférence.
Alors, je suis vraiment désolé de supprimer la douceur du printemps pour vous imposer la rudesse de mes propos. Alors, maintenant, on va regarder Saint-Augustin. J'ai choisi Saint-Augustin, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Le choix porte sur le fait que chez Saint-Augustin, quasiment tous les éléments d'une théologie sont présents. Et il restera à faire à Saint-Thomas ce qu'il fait d'habitude, mettre les choses en ordre et en place pour donner la pleine intelligibilité au traité de la béatitude. Alors déjà pour Saint-Augustin, il est important de savoir que la recherche de la béatitude, c'est constant dans son œuvre écrite. C'est quelque chose qui, pour lui, n'est pas simplement une question d'étude. Et ça s'apparente à sa conversion. Autrement dit, dès sa conversion, il porte en lui un appel au bonheur parfait du chrétien. Et toute sa recherche théologique, c'est de découvrir mais comment le chrétien peut arriver à son bonheur parfait. Il est clair que la réponse, elle est très simple. Ce bonheur parfait, c'est en Dieu, dans la contemplation du mystère de la Trinité. Mais chez lui, il y a deux voies parallèles qui sont importantes à comprendre. La première, c'est la voie de la sagesse. La seconde, c'est la voie de la foi. D'une certaine façon, il y a une sorte d'élitisme, parce que la voie de la sagesse n'est pas faite pour tous. La voie de la foi, c'est le chemin de tout le monde, des âmes simples. Mais quand saint Augustin parle de sagesse, ce n'est pas une sagesse de type humaine, c'est une sagesse qui aboutit en Dieu. Hein, ne prenez pas une sorte d'humanisme humanisant quand saint Augustin parle de sagesse. Et cette sagesse, elle a trois degrés chez lui. Premier, c'est la dimension morale, où l'homme en quête de sagesse recherche le bien. Ultimement, c'est la recherche de Dieu. Il y a le point de vue de l'intelligence, qui chez lui est très important, où l'homme est à la recherche du vrai, et ultimement ce vrai c'est Dieu. Et il y a la sagesse fondamentale et suprême, qu'il appelle la sagesse du surnaturel, la sagesse du croyant. Mais chose importante, c'est que la sagesse du croyant ne supprime pas les autres sagesses. Et il nous dit qu'il faut partir de notre âme pour aller jusqu'à Dieu. Et cela afin de lui être uni. Autrement dit, c'est à l'intérieur même, c'est au-dedans de nous-mêmes que l'on découvrira la présence de Dieu. Mais il y a un parallèle avec sainte Catherine de Sienne, sur la connaissance de soi. Et donc la tâche essentielle du sage, c'est de connaître son âme. Et c'est uniquement en fonction de la connaissance qu'elle a d'elle-même qu'elle est capable de connaître sa source, qui est Dieu. Et il y a un mouvement d'intraversion. Et cela afin d'en jouir. Alors je reviendrai sur la jouissance chez saint Augustin, mais c'est un élément très important, ça. Parce que c'est l'élément caractéristique de la béatitude humaine, chrétienne. Autrement dit, vous voyez, cette voie d'intériorité, par la connaissance que l'âme a d'elle-même, elle va découvrir sa propre cause, et découvrant sa propre cause, elle va pouvoir en jouir. Mais on est dans une intériorité de type psychologique au grand sens du terme. Pas psychologique autant de la médicale et universitaire du terme, mais au grand sens du terme, comme l'étude du vivant, c'est de la psychologie. Et donc cela va réclamer tout un exercice qui est l'exercice de l'étude et de l'effort de la raison. Et l'âme, pour se connaître elle-même, afin de découvrir sa cause et d'en jouir, est invitée à l'effort de la raison. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose qu'on découvre au plus profond de nous-mêmes. Alors vous irez voir dans La Cité de Dieu, au livre 8. Vous savez que saint Augustin a écrit un livre qui s'appelle La Cité de Dieu. Ne vous inquiétez pas, il n'en a pas écrit qu'un, mais entre autres, il a écrit celui-là. Et dans le livre 8, saint Augustin explique un peu ça, en montrant que cette étude, c'est l'apprentissage du détachement du sensible. Pour découvrir le sens de l'invisible. Et ça, c'est toute l'initiation chrétienne. Et ça, ça peut se réaliser, nous dit-il, que par l'élan que nous donne la sagesse, qui nous permet, à travers les réalités sensibles, de découvrir le sens de l'invisible. Alors, vous voyez, une telle théorie, poussée à fond, on pourrait reconnaître les moines tibétains. Alors, c'est intéressant de voir que saint Augustin, en parlant de la béatitude, ne s'est pas arrêté simplement au cheminement de l'homme qui va vers Dieu pour atteindre sa béatitude. Il a voulu élaborer d'une certaine façon des distinctions qui vont permettre de discerner véritablement si on a la recherche de la béatitude chrétienne. Mais il ne décrit pas simplement un itinéraire de l'âme, il donne certains points. Alors c'est ces points que je vais regarder avec vous, qui sont intéressants parce qu'il ne les donne pas dans l'ordre, vous verrez, il les donne dans l'ordre exactement inverse de saint Thomas. Alors, il faudra se poser la question, pourquoi ? Mais cependant, ces ordres vont bâtir la théologie de la béatitude. Alors pour ça, je vous renvoie au De Doctrina Christiana. C'est un petit opuscule, ou un petit... en papier Bible, ça fait 400 pages. Et petit, parce que c'est du papier Bible, mais bon, c'est un opuscule assez intéressant, où il parle de toute la doctrine chrétienne. Et cet ouvrage... est caractérisé par une distinction que saint Augustin va faire quasiment partout entre les choses qu'on utilise et les choses dont on jouit. Vous voyez, cette distinction est équivalente à la distinction que saint Thomas, par exemple, ferait entre l'acte et la puissance dans la prima pars. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez important. Tandis que c'est assez systématique chez lui, cette distinction. Vous voyez, les choses qu'on utilise et les choses dont on jouit. Et il nous dit, les choses dont on jouit nous rendent heureux, et les choses qu'on utilise nous aident à être heureux. C'est tout bête, mais vous allez voir les conséquences. À partir de là, il se pose la question, mais qui est quoi dans tout ça ? Il nous dit que Dieu est le seul et unique objet de jouissance. Alors que le monde et les créatures sont des instruments de jouissance. Et que l'homme, la particularité de l'ange et de l'homme, il a la capacité d'utiliser et de jouir. Vous voyez, dans la cosmologie ou la planification augustinienne, Dieu seul est objet de jouissance. L'ange et l'homme ont la capacité d'utiliser les choses et d'en jouir. Et le monde, ainsi que toutes les créatures, sont des instruments de jouissance. Et ce qui donne tout de suite une place particulière à Dieu. Autrement dit, la seule réalité du bonheur véritable se trouve non dans les créatures ou dans les anges ou dans le monde, mais ne peut se trouver qu'en Dieu. Et pour lui, c'est assez simple. besoin de se compliquer la tâche en disant « Est-ce que Dieu est véritablement l'objet de mon bonheur ?» Pour lui, c'est clair, c'est le seul et unique objet du bonheur. Le reste ne peut qu'y contribuer. Et il nous dira, la béatitude consiste dans la jouissance d'un bien. Alors ça, vous retrouverez ça chez saint Thomas. Alors je vais regarder en plusieurs points la démarche que prend saint Augustin. Et chose étonnante, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui connaissent un petit peu la somme théologique et la question 5, l'article 6 de la prima secundae, c'est-à-dire le terme de la question de saint Thomas, où il se demande est-ce que tous les hommes désirent la béatitude. Je crois que ça doit être ça, ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. Article 8. T'as la prima pars bon. Bon, ça doit être quelque chose comme ça, vous voyez. Pour saint Thomas, c'est la question finale. Pour saint Augustin, c'est la première affirmation, l'affirmation de base. Dans la nature de l'homme, il est inscrit le désir de la béatitude. Et ça, c'est dans la nature de l'homme. Autrement dit, à la différence de saint Thomas, qui a un chemin qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, métaphysique, ou pour pas vous faire peur, ontologique, c'est-à-dire saint Thomas part de la finalité pour découvrir la béatitude, saint Augustin part de la dimension psychologique de la vie, le désir du bonheur. Et c'est une démarche très différente. Autrement dit, le postulat, il est là. Moi, je pense que beaucoup font la différence de démarche. C'est pas sûr. Bon. Moi, alors, je ne fais que le souligner. Et le postulat est là, c'est tous les hommes désirent la béatitude. À partir de ce moment-là, saint Augustin va poser la béatitude comme une exigence de l'homme. Et la grande question qu'il se pose, c'est est-ce que cette exigence, elle est du côté de l'individu ou du côté de la nature? Et vous allez voir, ça a des conséquences très importantes, cette question. Autrement dit, est-ce que l'exigence de la béatitude qui est inscrite dans l'homme est inscrite dans son individualité ou dans sa nature? Alors ça, la théologie du Moyen-Âge le développera. Saint Augustin ne fait qu'ébaucher des réponses en disant « Vu la variabilité à l'infini des individualités, vu l'unicité de la béatitude, le désir de la béatitude ne peut pas se situer dans ce qu'il appelle le libre arbitre individuel, mais dans le libre arbitre de nature. » J'explique. Autrement dit, il est en train de poser quelque chose de très important, c'est de dire que, vous voyez, c'est la nature de l'homme qui exige sa tension vers la béatitude. C'est pas simplement si j'en ai envie. Vous voyez, il nous dit, dans le De Trinitate, si ça vous intéresse, vous irez voir, en somme, on ne doit pas dire heureux celui qui agit à sa guise. Et ça, c'est très important comme conception. Parce que vous voyez, à partir du moment où la conception du bonheur est prise par ce qu'il appelle cette volonté individuelle, on a chacun son, je vais dire chacun son truc, mais c'est un peu ça. Et on a chacun son bonheur, on a chacun sa conception de l'épanouissement de ma personne. À partir du moment où je dis le contraire, mais tout homme est déterminé, c'est une exigence qui touche tous de la même façon avec le même objet. Non pas avec le même mode, mais la détermination existe chez chacun. C'est la chaleur. Vous voyez, ça c'est un point très important. Voir que quand on parle de béatitude, il nous dit on ne peut pas considérer que c'est simplement l'individu qui trouve sa béatitude. Il le trouve au plus intime de sa nature. D'où la nécessité de l'intériorité pour découvrir ce que je suis afin de découvrir ma propre détermination à la béatitude. Vous voyez, ça demande un petit travail sur soi. Alors là, il a un petit peu une démarche similaire à celle d'Aristote et à celle de saint Thomas, d'ailleurs, ce qui est très étonnant. Il y a toute une étude chez lui sur les fausses béatitudes. Vous voyez, là, il tape sur les épicuriens, les stoïciens, ainsi de suite. Autrement dit, toutes les béatitudes qui ne comblent pas, d'une façon parfaite, le cœur de l'homme. Et donc il va nous dire, la béatitude c'est quoi? C'est quelque chose qui est imprimé dans nos esprits, autrement dit qui est imprimé dans nos esprits, non pas dans l'esprit d'un tel ou un tel, c'est constitutif de l'esprit. Donc, comme conséquence, c'est pas optionnel, si vous voulez. C'est pas optionnel le bonheur. Le bonheur béatifiant, c'est pas optionnel. C'est le bien de l'esprit humain. Et il nous dit, l'objet de cette béatitude, c'est la totalité du bien de l'homme. Alors aussi cette notion est importante. On la trouve chez Aristote et on la retrouvera chez saint Thomas. Autrement dit, la béatitude, c'est quoi? C'est un bien qui est souverain, qui est capable d'être la totalité du bien de l'homme. Donc de combler pleinement l'homme. Alors, je vous cite la cité de Dieu, hein, où il nous dit « On est heureux lorsque l'on jouit de ce pourquoi l'on veut tout le reste, car ce bien supérieur ne serait qu'aimable en soi. La béatitude n'est autre chose que la jouissance du vrai et souverain bien. » Vous voyez, une notion de plénitude quant à la capacité de l'homme. Alors après, il y a l'unique originalité de saint Augustin, il y en a beaucoup, mais en tout cas sur le traité de la béatitude, c'est l'unique originalité de saint Augustin. Il parle des conditions pour obtenir la béatitude. En comprenant que ce n'est pas des conditions morales, hein, c'est-à-dire je vais être sage, j'aurai la béatitude, vous voyez, c'est des conditions structurantes de l'esprit. Et la première, nous dit-il, c'est avoir tout ce que l'on veut et ne rien vouloir de mauvais. Il nous dit une chose aussi intéressante, c'est pour être heureux, il faut avoir la connaissance de son bonheur. Mais le bonheur, ça ne se vit pas dans l'ignorance. Et quelqu'un qui vous dit « Ah, heureux es-tu ?» Oui, oui. Mais c'est pas ça la béatitude. En principe, on s'en aperçoit. Et la méthode Coué, c'est pas la béatitude. Et quand quelqu'un vous dit mais réjouis-toi, 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 c'est pas non plus la béatitude, même si vous dites oui, oui. Un autre point dont il parle, c'est la béatitude, c'est la jouissance du souverain bien. La possession du souverain bien est chose très importante sur laquelle il insiste énormément. C'est la sécurité de la possession du souverain bien. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui est éternel. Le corollaire de la vraie béatitude, c'est quelque chose d'éternel. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Vous savez, un coup on le sera, un coup on ne le sera pas, un coup on le sera, un coup on ne le sera pas. Autrement dit, seule l'immortalité remplit la condition de béatitude. Alors, bien sûr, alors ce bien souverain. Hein, il le dit dès le point de départ, c'est Dieu, c'est la très sainte Trinité. Et donc la question qui va se poser, c'est comment nous pouvons considérer que Dieu est la très sainte Trinité et le bien béatifiant, c'est-à-dire le bien qui nous rendra pleinement heureux. Là, je vous sens dubitatif sur votre envie d'aller dans la béatitude. Ne vous inquiétez pas, ce sera nettement mieux. Bon. Alors, la première chose sur laquelle il insiste, c'est que la béatitude, c'est un acte de connaissance. Et c'est par cela que Dieu pourra nous être l'objet de notre bonheur. Mais comme saint Augustin ne dit jamais les choses dans les mêmes ouvrages, dans d'autres lieux, il dit que c'est un acte d'amour. Alors, c'est intéressant parce que je pense que le père en parlera, hein, le père Philippe en parlera, c'est la grande querelle autour de la béatitude, savoir est-ce que la béatitude, c'est essentiellement un acte de l'intelligence ou est-ce que c'est un acte de la volonté? Grande question sur laquelle les franciscains et les dominicains ne sont pas encore d'accord, je pense. Moi, ceux qui sont au ciel sont d'accord parce qu'ils ont trouvé la solution, mais ceux qui sont sur terre ne l'ont pas. Il y a peu de communication ou bon. Et alors, il y a une terminologie très intéressante chez saint Augustin où il nous dit la béatitude, c'est la joie que cause la vérité. Autrement dit, soit on va regarder la béatitude du côté de la fruitio, autrement dit de la jouissance, soit je vais regarder la béatitude du côté de la réalité à laquelle je suis uni. Vous allez voir de quel côté je penche, si je suis franciscain ou dominicain. Et alors, il est clair que l'acte par lequel je suis uni à Dieu, c'est l'acte de vision. Alors, il est clair, ça, vous verrez ça avec saint Thomas, si c'est clair. Et la fruitio qui est inhérente à cet acte de vision, c'est ce que traditionnellement, on appelle la béatitude. Alors que formellement, la béatitude, c'est l'acte d'union à l'objet, du moins à l'objet, à Dieu lui-même. Alors, il y a aussi une chose importante quand saint Augustin parle de l'union à Dieu. Il nous dit que la vision que nous aurons de Dieu concerne Dieu tout entier, mais ne le comprend pas totalement. Alors pensez ça. Et la vision de Dieu le concerne tout entier, mais ne le comprend pas totalement. Alors il fait une distinction qui est à mon avis très importante, qui sera reprise par saint Thomas dans la Prima Pars. Je crois que c'est question 14 sur la connaissance de Dieu, il me semble. Bon, vous irez voir les spécialistes. Et où il y a une grande différence entre le fait que je vois Dieu et le fait que je suis capable de le cerner dans sa totalité. Et la vision béatifique n'est pas une pleine saisie du mystère de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas d'adéquation entre ma vision et Dieu lui-même. Cependant, je ne le connais pas partiellement. Parce que sinon, je ne connaîtrais pas pleinement Dieu. Je ne serais pas vraiment dans une béatitude, puisqu'il me manquerait quelque chose. Donc vous voyez, il y a deux bouts à tenir. Il y a l'affirmation de la vision de Dieu, qui est une vision de Dieu dans sa totalité. Je ne connais pas un petit bout. Vous voyez, moi, quand j'étais enfant, je m'imaginais le ciel comme une grande salle de cinéma dans laquelle je pourrais voir tout ce que Dieu connaissait. Je me disais, ça va être extraordinaire. Puis après, en grandissant, je me suis dit, bon, ça doit être autrement. Puis maintenant, je ne me pose même plus la question de savoir comment c'est, parce que de toute façon, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette relation à Dieu dans la vision n'est pas une compréhension du mystère de Dieu. Là-dessus, l'avantage de saint Augustin, c'est qu'il n'en dit pas plus. Saint Thomas répondra. Mais comme je ne traite pas de saint Thomas, vous essayerez de chercher chez lui la réponse. Et vous voyez, c'est une des questions sûrement les plus spéculatives sur ce traité. Là, je parle pour les frères. Amusez-vous avec ça. Alors, après, il y a quelque chose d'important, Saint Augustin, ayant dit tout ça, il a quand même les pieds sur terre et se dit, bon, c'est très bien, mais la béatitude aussi, on est quand même invité à la vivre maintenant. Autrement dit, voyez, il y a cette béatitude terrestre qui est déjà anticipation de la béatitude céleste. Et pour cela, pour que ce soit l'anticipation du bonheur céleste, faut-il en prendre les moyens. Et il donne trois moyens par lesquels on va pouvoir accéder d'une façon anticipée à la béatitude éternelle. Parce que la béatitude parfaite, c'est clair, c'est celle du ciel. Celle de la terre est imparfaite, mais cependant, c'est quand même une béatitude. Et là, je crois que ce sont, vous voyez, vraiment trois moyens de vie chrétienne qui sont importants. Ce sont trois critères, à mon avis, intéressants quant à la vie chrétienne. La première, ça c'est dans le prolongement de la sagesse dont je parlais au début. C'est d'essayer de rentrer dans la connaissance du mystère de Dieu. Pour fuir l'ignorance du pécheur. Autrement dit, celui qui ne prend pas le chemin de la béatitude. Alors, il donne plusieurs choses pour ça, la lecture des Écritures, la réception de l'autorité divine, après, et alors ça c'est souvent le point le plus pratique, c'est ce qu'il appelle la bonne vie. Le deuxième point, c'est la bonne vie. Et cette bonne vie consiste à imiter Dieu, à ressembler à Dieu. Tandis, la vie morale m'approche de la béatitude. Mais en étant semblable à Dieu. Le troisième point qui est très important, c'est de dire que le seul et unique moyen de tout cela, en fin de compte, c'est la grâce. Autrement dit, l'homme ne peut pas réaliser son bonheur parfait par lui-même. Et ça, c'est important à comprendre. Parce qu'on pourrait se dire, bon, tout ça, c'est très bien, mais on va mettre en pratique. Pour ceux qui ont essayé, hein, s'il n'y a pas le troisième, ça ne marche pas. Autrement dit, seule la grâce donne la force à l'homme d'accomplir ce chemin vers la béatitude. Seule la grâce donne la béatitude. Ce n'est pas en fonction de ce que j'ai fait que j'obtiens la béatitude, mais c'est en fonction de la grâce de Dieu. Saint Augustin nous dit dans son opuscule contre Julien, « Par le Christ seul, nous pouvons efficacement parvenir à la béatitude surnaturelle. » Autrement dit, voyez, c'est cette affirmation qui est quand même très importante, c'est de voir que si l'homme cherche le bonheur, si c'est inscrit en lui-même, il ne peut pas le réaliser sans la grâce de Dieu. Alors, les conséquences sont légion, hein, parce que vous voyez, qu'est-ce que je peux faire sans la grâce de Dieu? Et là, je parle point de vue apostolique. Quand quelqu'un vient nous voir en nous disant, et nous, on donne des conseils de type philo-philo, pas de problème, naissance des vertus, découverte de la finalité, et tout ce qui fait que le langage est bien structuré et puis ça marche bien. Alors, quand on a quelqu'un vraiment de bien abîmé, bon, on fait plus philo-philo, on console. Mais ça, c'est bien, mais vous voyez, il y a l'acteur principal, c'est la grâce de Dieu. C'est quand même étonnant, ça. Alors ça, on en est tous persuadés. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que ça veut dire dans le concret. Alors voilà un petit peu dresser rapidement le regard que saint Augustin sur la béatitude. L'avantage de ce regard, c'est de mettre en place tous les éléments que saint Thomas arrivera à ordonner. Comme je vous le disais, hein, saint Thomas ordonnera l'ensemble par rapport à la finalité. Hein, c'est le début du traité dans la somme théologique de saint Thomas sur la béatitude. C'est un regard sur la finalité, ce qu'est la finalité en tant qu'elle est capable de me faire comprendre que je suis fait pour agir en vue d'une fin. Et toute la recherche qu'il a sur ce qu'est cette fin et ce qu'est cette béatitude parfaite. Mais le danger d'un auteur comme saint Augustin, comme c'est tellement vague, on en fait tout et n'importe quoi. Vous voyez, petite anecdote, vous connaissez bien saint Augustin, alors je ne sais pas si pour ceux qui étaient à la dernière session, j'en ai peut-être parlé, mais chez saint Augustin, vous avez deux courants d'interprétation, ce qu'on appelle l'optimisme et le pessimisme. Autrement dit, chez saint Augustin, il a dû écrire des choses quand il n'avait pas le moral, et des choses quand il avait le moral. Et donc ça donne des connotations très différentes sur l'approche du mystère de Dieu. Dans l'optimisme augustinien, alors là, c'est extraordinaire, tout va bien, tout est réconciliable, le péché, c'est pas grave, la grâce peut tout, vous voyez, c'est extraordinaire. Puis alors, quand il avait le cafard, c'est la catastrophe, c'est attention, la damnation est à la porte, vous voyez, c'est assez marrant, sur les mêmes sujets, souvent dans les mêmes... Maintenant, on va passer à un autre point, qui est un rapide, en 10 minutes, sur toute l'histoire de la pensée catholique sur la question de la béatitude. Cela à travers un prisme particulier qui s'appelle le magistère. Alors, vous voyez, pourquoi ce prisme particulier? Parce que, vous voyez, de temps en temps, le magistère est un peu garde-fou de tout ce qui se dit comme bêtise, pour dire « n'allez pas dans ce sens-là ». Mais quand le magistère dit qu'il soit anathème, ben c'est tout simement dire qu'il ne faut pas prendre ce chemin. Donc c'est intéressant de juger le développement de la pensée théologique sur la béatitude à travers le prisme du magistère. C'est un petit raccourci. Ça n'empêche pas de lire les auteurs et de consulter les ouvrages théologiques. Alors, sûrement une des choses les plus affirmées dans le magistère par rapport à la béatitude, c'est l'inaccessibilité de la béatitude par les forces humaines. L'inaccessibilité de la béatitude par les forces humaines. Bon, je vais le dire en plus simple, c'est la nécessité du secours divin pour atteindre la béatitude. Alors vous irez voir dans un petit livre qui s'appelle « La foi catholique », qui est la traduction d'une compilation de textes du magistère qui s'appelle le Denzinger, le nom de la personne qui a compilé ces textes. Et dans ce petit livre, hein, ça doit faire partie de votre bibliothèque, il faut savoir le lire, hein, parce que vous voyez par exemple, il y a certaines propositions, et je vous lis celle du Concile de Vienne dont je vais vous parler. Toute nature intellectuelle est de soi bienheureuse par nature. Et l'âme n'a pas besoin d'une lumière de gloire qui l'élève pour voir Dieu et jouir de lui dans la béatitude. Mais il n'y a que ça. Mais vous voyez, il faut lire juste au-dessus, en toutes petites lettres, cette thèse fut condamnée. Non, je dis ça parce que je me souviens une fois d'une discussion véhémente avec un frère, sur un problème sur l'espérance et la foi, et il m'avait sorti un texte qui était de ce style. Alors moi, je lui ai étonné, je lui ai dit, tiens, l'Église pense comme ça, ben, très bien. Puis après, je regarde le livre, puis il dit, t'as vu un peu, là, ces thèses furent condamnées. Donc si vous voulez, il faut savoir lire en entier, parce que si on nous simplement, on se dit, toute nature intellectuelle est de soi bienheureuse par nature, et l'âme n'a pas besoin d'une lumière de gloire qui l'élève pour voir Dieu et jouir de lui dans la béatitude. Et on se dit, ah, bon ben voilà, c'est la doctrine de l'Église. Oui, à manier intelligemment, c'est tout. Mais il n'y a pas de doute. Alors vous voyez, ça c'est l'affirmation du Concile de Vienne, qui en fin de compte dit, par ses forces naturelles, l'homme ne peut pas atteindre la vie surnaturelle. Il a besoin d'un secours divin. Secours divin pour l'élever afin de voir Dieu. Et ce secours divin l'appellera la Lumen Gloriae, la lumière de gloire. Mais je ne rentre pas dedans parce que je pense que le Père Philippe en parlera abondamment. Alors après, il y a quelque chose d'important qui nous vient du Concile de Florence. Le Concile de Florence, c'est un concile du XVe siècle. Bon, je ne vais pas vous lire tous les textes. Hein. Je vous cite simplement le numéro 693 du Denzinger. Je n'ai pas la référence en foi catholique, mais vous cherchez, il y a une table de correspondance. Hein, où il est dit « Les âmes purifiées reçues dans le ciel voient clairement Dieu lui-même. » Là, j'arrive plus à me lire. Alors, attendez, je vais aller chercher dans le... Puis, il n'est pas dans ce texte. Alors, attendez, je vais essayer de me relire. Excusez-moi, il y a longtemps. Oui, pardon, voilà. « Les âmes purifiées reçues dans le ciel voient clairement Dieu lui-même, trine et un, tel qu'il est. » Mais écoutez la suite. Mais l'une, cependant, plus parfaitement que l'autre, selon la diversité de ses mérites. Autrement dit, il y a une inégalité foncière au ciel, et ça a tracassé beaucoup de théologiens. Se dire, mais est-ce que Marie verra Dieu plus parfaitement que moi ? Est-ce que les saints... Est-ce que moi j'aurai un strapantin ? Et puis, il y en aura un qui sera tout proche du trône. Vous savez, les visions de l'Apocalypse, il y en a qui seront tout proches du trône, qui seront même avec les vieillards en train de jeter les couronnes, puis il y en a qui seront dans l'assistance. Vous voyez, on peut imaginer... Non, mais ça vous fait rire, mais c'était une vraie question. Est-ce qu'il y a un degré dans la béatitude ? Eh bien, il y a un degré, mais pas comme on le pense. Marie ne verra pas mieux Dieu que chacun d'entre nous, parce qu'on le verra tel qu'il est. Moi, pardon, excusez-moi, je viens de dire une grosse hérésie, là. Vous voyez, la différence ne vient pas sur la vision, autrement dit, je verrai Dieu tel qu'il est, en tant que tel, mais cependant sur l'intensité de cette vision. Et chose importante, cette intensité, elle viendra de ma propre capacité. Donc, chose extraordinaire, je ne serai pas frustré. En regardant le voisin, je ne dirai pas, oh là là, c'est dommage, il voit plus que moi. Parce que même ça, je ne pourrai plus le dire, parce que ça, ce sera comblé. Comme extraordinaire, ça, vous voyez, il n'y aura pas de jalousie au ciel. Ce sera un amour non jaloux. Ce sera peut-être l'unique exemple de l'existence. Non. Mais vous voyez, c'est important comme chose, vous voyez. Cette conception de la gradualité dans la béatitude. Ben, gradualité, il y a. Alors, après, vous avez un texte contre les bégards. Les bégards, ce sont des hérétiques du XIVe qui ont été sanctionnés au Concile de Vienne. Et alors, les bégards, c'était des gens extraordinaires, parce que moi, j'en rencontre souvent. Ce sont des gens qui disent, mais tout est parfait, nous sommes des bienheureux. Écoutez ce que dit le Concile de Vienne. Et vous allez voir pourquoi il faut lire intelligemment le Denzinger. L'homme peut, dans la vie présente, atteindre la béatitude où il aura dans sa vie. Non, pardon. L'homme peut, dans la vie présente, atteindre la béatitude où il l'aura dans la vie bienheureuse. Autrement dit, on peut dire, mais au-dessus il y a marqué cette thèse fut condamnée par le Concile de Vienne. Autrement dit, la situation c'était de dire, mais la vie bienheureuse, je peux déjà l'atteindre ici-bas. Il y a eu tout un mouvement spirituel, et ce mouvement spirituel, vous le connaissez bien, puisqu'il a eu des petits-enfants, ce qu'on appelle le quiétisme. Vous savez, situation extraordinaire, Je ne pensais pas que ça existait, mais j'ai rencontré, il n'y a pas tellement longtemps, un vrai lymphatique. On m'en avait toujours parlé, mais vu comme je suis, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et alors, quelqu'un qui s'assoit, qui ne bouge pas, 3 heures après, on lui demande « ça va ?» Il répond « ça va ». Et ça, c'est vraiment... Mais un vrai, je vous assure, c'est digne d'une place au Carmel. Non, je plaisante. Ah non. Il faut lire au-dessus, ce site est une plaisanterie. Vous voyez, autrement dit, vous voyez, ce mouvement quiétiste qui consiste à dire mais tout baigne, tout va bien, c'est extraordinaire, je suis bien dans le Seigneur, c'est l'oraison, c'est bien, c'est la vie, c'est bien, c'est extraordinaire, tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il y a une dimension dramatique dans l'existence chrétienne, parce que la béatitude n'est pas encore là. Après, vous avez un texte du 15e siècle, du 14e siècle, pardon, de 1336, écrit par Benoît XII, qui s'appelle Benedictus Deus, qui reprend ce que disait saint Augustin. Parce que des farfelus se sont mis à penser une béatitude par étape. Tandis, une sorte de béatitude par étape, et puis un jour je l'aurai un peu plus, un jour je l'aurai un peu moins. Voyez. Alors écoutez ce que dit Benoît XII. Après qu'aura commencé, dans les bienheureux, la vision intuitive et faciale accompagnée de jouissance, cette vision et cette fruition demeurent. C'est pas possible. Il y a 2 ans, j'écrivais très mal. Oui, alors bon, si vous voulez, en 2 mots, l'idée, c'est la suivante. C'est de dire que, vous voyez, à partir du moment où on est dans la vision de Dieu, il ne peut plus y avoir de progression. Et on reste éternellement dans cette vision. Il n'y a pas de, chose d'intensité grandissante. Il n'y a pas de diminution. Mais chose importante, c'est qu'il y a quand même un temps. Alors ça, c'est le temps des théologiens qu'on appelle l'évoum. Allez, je vais comprendre quelque chose. Vous poserez ça aux frères pour les carrefours demain, histoire de les bloquer. Et qu'est-ce que c'est que l'évoum ? Tandis, c'est le temps qui nous sépare du jugement final. Voilà. Autrement dit, c'est l'appréhension du temps d'un bienheureux. Ce n'est pas un temps, c'est une durée. C'est pour ça qu'on l'appelle l'évoum. Mais faites la différence entre le temps et la durée, vous comprendrez. Autrement dit, vous voyez, dès la mort... L'homme qui rentre en possession de sa béatitude rentre en possession d'une façon parfaite et le jugement dernier n'ajoute rien essentiellement à cette béatitude. La seule chose qui est ajoutée, c'est d'une façon concomitante, la résurrection du corps. Mais la résurrection des corps n'est pas, comment dire, un manque à la béatitude, à la vision béatifique. Alors ça aussi, saint Thomas traite de cette question. Mais parce que la question qu'il y a derrière, c'est au point de vue théologique de dire, mais bon, très bien, jusqu'au jugement final, on a une sorte de prévision béatifique. Et on est dans le sas d'entrée, puis le jour, au jugement final, on rentrera dans la chambre du roi. Pour les épousailles, non. L'épousaille, c'est tout de suite. La vision, c'est tout de suite. Et ce qu'apporte le jugement final ne change pas spécifiquement la vision béatifique. Mais permet une extension. Tout en comprenant que, vous voyez, ça n'amènera pas que cela ne veut pas dire qu'il y a qu'entre la mort et le jugement final, il y a une petite vision béatifique. Elle est déjà plénière et totale. Alors après, vous avez des interventions du magistère. Oui, bon, ce sont des petits points, ça. Vous avez des interventions du magistère qui, elles, sont, à travers le Vatican I et Pie XII, qui sont nettement plus délicates à saisir et à comprendre. Alors, je vais d'abord vous citer le Concile Vatican I, donc sa constitution défidée. Je vous cite cette constitution. Dieu, dans son infinie bonté, a ordonné l'homme à une fin surnaturelle, parce qu'il participe à un bien divin qui dépasse absolument ce que peut savoir l'esprit humain. Autrement dit, la question qui était derrière, c'est de dire, mais l'homme est naturellement orienté à sa béatitude. Et donc, d'une certaine façon, le surnaturel devient naturel. Vous voyez, saint Augustin qui nous dit, c'est inscrit dans l'homme. Oui, mais ce qui est inscrit, c'est déjà le surnaturel. Autrement dit, est-ce qu'il y a une béatitude vraiment naturelle? Ça, c'est la grande question que l'on verra dans la théologie du XIXe siècle. Et il y a une intervention de Pie XII, par rapport à notre petit problème théologique, dans Humanae Generis. Vous irez voir, c'est le numéro 654 de ce volume, où il dit « D'autres déforment la vraie notion de la gratuité de l'ordre surnaturel. Quand ils prétendent que Dieu ne peut créer des êtres doués d'intelligence sans les ordonner et les appeler à la vision béatifique. » Autrement dit, même problème. Vous voyez, si l'homme est créé en vue de la vision béatifique, il y a un lien nécessaire. Et donc ce lien nécessaire supprime la gratuité du don du surnaturel. Autrement dit, l'approche de type psychologique que donne saint Augustin est importante au point de vue de la vie, parce qu'elle rejoint l'expérience que l'on peut faire, mais elle ne peut pas se justifier en profondeur au point de vue théologique. Parce que si vous partez du désir que vous avez de Dieu, ce désir, s'il est structurel en vous, il pose un lien nécessaire entre vous et la béatitude. Et ce lien nécessaire supprime le don de la gratuité. Voilà un petit peu. Bon, alors ce sont des choses compliquées. Voilà à grands traits ce que dit le magistère. Il y aurait des quantités d'autres choses. Vous avez remarqué, mais ça je l'ai fait volontairement, c'est pas un oubli, mais c'est volontaire, sûrement du fait du manque de temps, mais je n'ai pas abordé tout ce qui touche du domaine de l'eschatologie. Autrement dit, ce qui se passera après. Je vous ai pas parlé de l'enfer. Vous savez, c'est pour en parler d'ailleurs, c'est une petite anecdote pour terminer, la façon dont on parlait de l'enfer au XVIIIe siècle dans les prédications paroissiales des petites campagnes. Le prédicateur était dans sa chaire, vêtu de noir avec une grande cape, c'est des mouvements de manches. L'organiste était à l'orgue avec juste sur les basses. Et puis le sacristain était derrière l'église, il faisait péter les pétards, tandis que l'organiste faisait les basses. Et le prédicateur disait, mes frères, l'enfer. Voilà. Et cela, c'était une invitation à la confession. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.